Totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la crise de l'esprit, ils vont trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. L'Union africaine invite les États membres à accroître leur budget alloué au secteur agricole pour assurer la sécurité alimentaire sur les continents. Cet appel a été lancé au cours du 23e sommet de l'organisation tenue à Malabo et qui a consacré 2014 l'année de l'agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique. Pour l'UIA, seule une stratégie efficace de financement des initiatives agricoles peut relancer ce secteur en Afrique. Dans le cadre de la relance de ce secteur, le gouvernement de l'RDC a lancé le 15 juillet dernier les travaux de construction du parc agro-industriel de Bukangalondo dans la province de Bandundu. Ce parc de plus de 70 000 hectares vise essentiellement le développement de la culture des légumes et produits maraîchers. Nous allons en débattre, on va échanger avec vous, avec comme question principale, que proposez-vous pour une relance efficace de l'agriculture à travers le pays? Merci d'échanger avec nous autour de cette thématique à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081 890 6315. Vous pouvez également poster vos commentaires sur notre page Facebook. Firo et Lameji et Elvira Pandou sont à la production de ce programme mis en onde par Dieudonné Nyangassa et coordonné et présenté par J.R. Lungembo. À tous et chacun, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo. Cette émission en parole aux auditeurs est une rediffusion.
Je l'ai dit tantôt, les chefs d'État et de gouvernement africains de 54 pays de l'UIA réunis à Malabo le 20 juin dernier en Guinée équatoriale ont fait le bilan d'ailleurs de leur politique agricole élaborée il y a 10 ans, mais si peu suivie dans les faits. Une fois encore, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Jean des Dieux Minengo, expert en environnement, vous êtes notre invité, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, JR, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Alors, comment vous réagissez par rapport à la recommandation de l'Union africaine et aussi l'exécution le 15 juillet dernier de cette recommandation par le gouvernement congolais en instaurant un parc agro-industriel de Bukangalondo pour essentiellement viser le développement de la culture des légumes et produits maraîchers afin de relancer les activités à travers le pays?
Merci, JR. Je pense que la recommandation de l'Union africaine est juste et est fondée parce que le continent africain ne pouvait jamais aller vers le développement sans que les Africains ne soient capables d'assurer la sécurité alimentaire de leur population. Donc cette recommandation, elle est tombée à bon point. Elle mérite une prise en charge des États pour qu'on puisse amener les États africains vers le développement agricole et qu'on soit capable d'assurer la sécurité alimentaire des communautés africaines. Et en rapport avec la création du parc agro-industriel de Bukangalondo, et comme on peut le dire, comme tout le monde le souhaite, nous souhaitons que ce parc puisse répondre réellement aux objectifs visés et nous confions au gouvernement d'aller de l'avant pour que ce parc puisse être réellement au service du développement agricole et au service de la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Voilà, JR, ce que je peux dire en rapport avec les deux questions que vous venez de me poser.
Alors, en 2003, lors du sommet de Maputo au Mozambique, les pays africains s'étaient engagés à consacrer au moins 10% de leur budget national au secteur agricole. Alors, pour le cas de la RDC, aujourd'hui, d'aucuns pensent que le fait qu'on n'ait pas encore atteint le niveau même de 10% consacré à la part allouée à l'agriculture, c'est difficile qu'on puisse vraiment relancer les activités agricoles comme il faut. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, merci JR. Moi, je pense que ce n'est pas le fait d'affecter 10% au secteur agricole que l'agriculture pourra se développer en République démocratique du Congo. Mais on peut affecter de façon théorique 10%, mais il faut que le budget soit lui-même respecté. Il faut que tout ce qui a été prévu soit vraiment réalisé sur le terrain. Le problème le plus important aujourd'hui pour le développement de l'agriculture en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo, ce n'est pas le problème du budget. Les vrais enjeux, c'est qu'il faut qu'il y ait une véritable volonté politique au niveau des affaires pour que l'agriculture soit réellement une priorité. Hier, comme vous l'avez vu depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, tous les gouvernements qui se sont succédés disaient voilà l'agriculture priorité des priorités. Là, il faut développer l'agriculture pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Il faut produire ceci, il faut produire cela pour que le Congo aille de l'avant. Mais sur le terrain, JF, nous sommes tous convaincus que quand on voit les discours et quand on voit les résultats sur le terrain, en tout cas, on se trouve entre les dérives de l'océan. Donc, il faut une bonne volonté politique, mais il faut également des bonnes politiques agricoles qui doivent être réalisées sur le terrain. Les 10% on peut l'affecter, mais si ces 10% dans la pratique ne sont pas affectés au secteur agricole, donc ça sera un truc théorique et ça n'apportera jamais le développement de l'agriculture en Afrique, surtout comme en République démocratique.
Mais déjà avec le parc agro-industriel, un pôle économique va naître et créer, et ça pourrait réellement permettre à ce que cet exemple soit répliqué ailleurs aussi à travers le pays, qui donnerait en fait un boom de la relance agricole dans le secteur, comme le pensent certains observateurs également.
Oui, les observateurs ont raison de penser de cette manière-là. Mais je voudrais dire ceci, qu'il y a deux éléments importants des JR qui vont conditionner la réussite du parc agro-industriel de Bukangalos. Le premier élément JR sur lequel il faut mener les réflexions, c'est l'organisation qu'il faut mettre autour du parc. Quand je parle de l'organisation JR, je veux parler quoi. Je voudrais dire qui va faire quoi au sein du parc agro-industriel de Bukangalos. Nous avons l'expérience du service national. Nous avons l'expérience des réserves stratégiques générales en termes organisationnels. Bien que les idées étaient très fondées, les idées étaient intelligentes, les idées étaient louables, mais l'organisation qui a été mise en place n'était pas efficiente. L'organisation n'était pas efficace. Et nous avons les résultats que nous connaissons aujourd'hui. Donc, tant qu'il n'y aura pas une bonne organisation autour du parc agro-industriel de Bukangalonzo, comme l'histoire en tant que science nous apprend, un événement qui se produit une fois a plus de chances de se produire deux fois, voire même plusieurs fois, il y a plus de chances que ce que nous avions connu avec les réserves stratégiques générales. Ce que nous avions connu avec les services nationaux puisse produire le même résultat. Donc au niveau de l'organisation, je veux dire qui va faire quoi. Il ne faut pas que dans l'organisation, qu'il y ait une organisation politique, c'est-à-dire on recommande des mesures, on recommande des nièces, on recommande n'importe qui. Il faut recommander des gens qui ont des compétences nécessaires pour que les parcs agro-industriels de Bukangalonzo donnent des résultats escomptés. Dans le cas concret, JR, nous risquons de retomber sur les mêmes
erreurs.
Pas seulement qui va faire quoi, mais à terme même d'approvisionnement des intrants. Parce que vous avez dit, JR, vous avez parlé de plus de 70 000 hectares. On aura des besoins importants en semences. Quelle est la structure nationale ou quelles sont les structures congolaises qui sont déjà contactées ou qui seront appuyés pour produire, pour fournir des semences au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Ce n'est pas quand le parc va commencer et puis on commence à ramasser des semences au niveau des marchés d'Ambela, on va chercher des semences à Matete, de gauche à droite, et finalement ce ne sont pas des semences de bonne qualité et on risque d'être finalement à côté de la plaque. Au niveau du produit phytosanitaire qu'il faut épandre, j'ai vu qu'on montre également des avions qui vont épandre des produits phytosanitaires. Mais c'est une bonne chose, c'est quel type de produits qui seront épandus. Ça, c'est la question fondamentale qu'il faut. Si on va aller vers les produits chimiques qui ont un impact négatif sur l'environnement, sur le sol, sur l'atmosphère, sur les eaux, et là, ça ne sera pas une chose. Donc, ça, c'est l'élément fondamental sur lequel la réflexion doit être basée. J'ai déterminé, le deuxième positionnera également la réussite du parc agro-industriel de Bukangalonzo, c'est l'étude des rentabilités du parc. Ça soit un canard boité, l'État met de l'argent, et chaque année, l'État continue à mettre de l'argent, et comme si ça devenait un service social, ça devenait une université, ça devenait un hôpital où l'État doit chaque année donner de l'argent. Il faut que le parc lui-même soit rentable. Et cette étude doit être menée avant que les choses ne puissent démarrer à l'avant. Donc voilà, de façon brève, j'ai ce que je peux dire en rapport avec ce qui doit être fait pour que les résultats soient exposés.
Oui, alors nous retenons une chose, c'est vrai, la relance de d'activités agricoles en Afrique ne passe pas forcément par la révision à la hausse du budget tel que recommandé par l'Union africaine pour que les États arrivent à consacrer 10% du budget national au secteur agricole. Mais pour vous, en tant qu'expert, vous pensez que il y a des préalables, notamment au sujet des deux éléments. D'abord, l'organisation autour du parc, pour les cas de la RDC, qui vient de se lancer avec cette politique, en fait, cette démarche de parc agro-industriel pour relancer le secteur agricole. Il faut une bonne organisation autour du parc. Qui va faire quoi? Vous avez cité les expériences du passé, notamment celles du service national et des réserves stratégiques, qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Le deuxième élément, vous avez évoqué l'approvisionnement des intrants et également les produits phytosanitaires. Il faudrait qu'on puisse réellement déjà, donc en amont, prendre, disons, des stratégies sur des structures congolaises qui vont approvisionner les parcs agro-industriels pour avoir des résultats escomptés. Merci beaucoup, Jean Desdieux Minengo. Nous vous gardons en ligne parce que nous allons ouvrir les débats avec les auditeurs qui nous ont rejoints. Il s'agit là d'un échange citoyen autour de cette thématique liée à la relance agricole en Afrique et particulièrement en RDC. 081-890-63-15.
Parole aux auditeurs.
Nous prenons le premier auditeur qui nous appelle de Kinshasa. Sylvain, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, hier, bonjour à tous.
Vous avez la parole. Quel est votre point de vue?
Merci. Je crois que je vais d'entrée de jeu saluer la volonté du gouvernement parce qu'ils ont compris une chose, que le développement est très important. Et ce développement est possible aussi grâce à l'agriculture. Alors, pour l'état de la création, de l'inauguration des travaux au parc de Bukangalonzo, parc agro-industriel, je suis en train de tenir ma position. La première, elle est historique. La deuxième, elle est sociale. Et la troisième considération, elle est scientifique. Par rapport à la première, je crois qu'il faut voir dans le passé, parce que l'histoire nous le dit, que ce projet n'est pas le premier. D'autres projets, déjà, ont eu à échouer. Pourquoi? La question reste posée. Et là, je crois que le gouvernement doit en tenir compte pour retenir un peu les éléments de réponse là-dessus. Par rapport à la deuxième considération, l'aspect social, la considération sociale, autour de ce parc, dans le Bandundu, il y a des populations locales qui y vivent. Et lorsqu'on parle d'un tel projet, de tel envergure, c'est-à-dire nous quittons l'agriculture telle que pratiquée par les petits paysans, parce que là, il y a des machines, l'agriculture est modernisée. Alors, parce que l'agriculture sera modernisée, sera très intense, il y aura l'utilisation des machines, des engrais et autres. Alors, je me pose comme question, les populations locales, que vont-elles devenir juste après? Est-ce qu'elles auront un pourcentage dans ce que l'État va produire? Est-ce qu'on va les associer de près ou de loin pour essayer de motiver l'accélération des travaux dans la concession du parc agro-industriel? Alors, troisièmement, la considération scientifique. Il y aura utilisation des engrais chimiques. Ces engrais-là vont polluer l'air, vont polluer les eaux que doivent prendre les populations locales. Est-ce qu'en amont, est-ce qu'en aval, on a eu le temps de gérer tous ces parcelles-là? Parce que, actuellement, nous n'avons pas besoin que de voir des projets naître. Mais surtout, de l'important, c'est de rendre à la population ce qu'elle attend, entre autres des récoltes, pour pallier aux déficits alimentaires et aux importations. Donc, on a vu là la volonté naître, mais on a besoin que cette volonté-là soit accompagnée par des actions. Et les mois venus, nous ferons bien le bilan. Mais un autre problème par rapport aux trois considérations que je viens de dégager, il y a aussi un problème de gestion. Un problème de gestion parce qu'on voit les Sud-Africains gérer ces parcs agro-industriels. Pourquoi les Sud-Africains, par exemple? C'est là où une pensée est encore cachée. Est-ce qu'on avait, eu le temps de préparer réellement ces travaux? Pourquoi pas envoyer les nationaux à l'étude pour élargir bien la vision de gestion d'un tel projet? On a associé les Sud-Africains. Nous ne comprenons pas encore pourquoi ils sont là. Peut-être que nous aurons un élément de réponse là-dessus. Mais dans tous les cas, le projet il est à soutenir. Mais c'est mieux que ce projet donne des fruits, hein, que ce projet donne des résultats escomptés, concrets, pour pallier, encore une fois, au déficit alimentaire que connaissent les ventres congolais. Donc, c'est autour un peu de ça, comme l'invité l'a dit, en amont et en aval, il y a encore des problèmes, il y a encore des préalables, mais restons plus scientifiques pour voir qu'est-ce qui va être fait et comment aboutir avec un tel projet. Mais le projet en soi, il est bon et attendons de voir qu'est-ce que cela va rapporter.
Merci beaucoup Sylvain d'avoir contribué dans cette émission autour de cette thématique sur la relance efficace de l'agriculture en Afrique et particulièrement en RDC. Vos considérations qui passent au fait par trois points, historique, social et puis scientifique. Et sur le point scientifique, donc nous mettons l'accent sur la pollution que pourrait générer ces parcs. Alors à l'amont, il faudrait déjà donc vous recommander, vous plaider pour que déjà le gouvernement puisse être un peu regardant par rapport à tout ce qui peut être comme conséquence sur la pollution de l'environnement. Merci beaucoup, Sylvain. On prend Eddy qui est à Lubumbashi. Eddy, bonjour.
Bonjour, Monsieur G.
Vous avez la parole, Eddy.
Merci beaucoup pour la parole, Monsieur G. Avant tout, je m'en veux aussi féliciter le gouvernement pour l'initiative qu'il a eue d'investir dans le domaine agricole dans notre pays. Mais moi, je suis un peu sceptique hein, avec le projet de Bukangalonzo. Le projet lui-même est appelé parc pilote, c'est-à-dire on va devoir essayer de voir si ça peut donner ou pas. On va essayer d'inviter les privés à investir dans ce parc et ce n'est qu'après que nous saurons si ce projet est bon ou pas bon. Et aussi, moi j'aurais voulu que ce projet soit confié plutôt à l'armée plutôt qu'au privé. Vous savez, dans un pays, en temps de paix, l'armée participe aussi au développement économique de son pays. Alors, j'aurais voulu que ce parc soit confié à l'armée. Maintenant, parce qu'il est confié à des privés, pourquoi ne pas ériger un autre parc, par exemple dans la province de Bas-Congo, et celui-là pourra lui être confié à l'armée. Ainsi, au bout d'un certain temps, nous aurons constaté entre les deux expériences, le parc de Bukangalonzo confié au privé et l'autre qui peut être érigé au Bas-Congo, voir après un temps, lequel des deux parcs a donné plus d'avantages, a produit plus de résultats. Mais moi, personnellement, j'ai toujours voulu, dans le secteur agricole, qu'on appuie les paysans. Et je ne sais pas s'il y a coïncidence, juste avant notre émission, dans le stage d'information, on a parlé d'un programme à Kabalo, le programme PKP financé par la FAO. Là, c'est la FAO qui vient avec des intrants, qui vient avec la semence, qui vient avec les engrais, mais aussi avec des assistants techniques qui sont des agronomes. Ils encadrent les paysans. Et au bout d'un temps, je crois même une année, au bout d'une seule saison, vous avez un très bon résultat. Et à part le plan à Kabalo, j'ai aussi suivi un plan à Dilolo, où il y a eu un financement, un programme dans la culture de riz. Ça aussi produit un très bon résultat. Moi, je veux bien, au lieu d'un parc comme Bukangalonzo, bon, je ne suis pas contre, je veux bien que cette initiative soit à côté de celle que moi je suis en train de proposer, qu'on puisse avoir plusieurs programmes des centaines ou des... Par exemple, moi, je pense même avoir un programme dans chaque secteur d'appui aux paysans pour augmenter leur productivité et aussi leur donner des conditions pouvant leur permettre d'évacuer leur production. Parce que je me dis, le programme comme celui de Bukangalozo, il vise surtout à approvisionner le marché de Kinshasa. Je ne vois pas le maïs de Bukangalozo aller à Bujala. Je ne vois pas le maïs de Bukangalozo aller à Popokabaka. À Popokabaka, à Bujala, c'est un lieu reculé où on produit le maïs. Alors, maintenant, si ceux de Bujala doivent produire et acheminer leur production vers les centres de consommation qui sont des villes dans notre pays, et ici à l'occurrence Kinshasa, ce marché est déjà pris par Bukangalozo. Quel sera maintenant le sort des millions des paysans congolais
qui sont à travers le pays?
Alors moi je pense que c'est mieux qu'on puisse avoir un programme d'assistance, qu'on assiste les paysans. Les paysans ont besoin de quoi? Ils ont besoin de matériel aratoire. Ils ont besoin d'une assistance technique. Le gouvernement doit avoir des ingénieurs agronomes qui payent bien, à qui ils donnent des moyens, des motos, du carburant pour sillonner les territoires, les secteurs, en vue de prodiguer des conseils aux paysans pour qu'ils arrêtent avec leurs pratiques ancestrales et adopter les nouvelles pratiques.
Les nouvelles stratégies.
Donc, beaucoup plus de productivité.
Merci beaucoup, Eddy.
Voilà un peu ma proposition.
Merci beaucoup, Eddy, d'avoir contribué dans cette émission. On va prendre Adi, qui est à Kindu. Adi, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Vous avez la parole, Adi.
Oui, oui. Salut, ma contribution. Premièrement, je vais commencer... D'abord,
oui, oui, rapidement, Adi, il faut être précis. Hein.
Oui, oui, je suis précis et je vais synthétiser mon idée. Je salue l'idée du gouvernement de pouvoir amorcer ce projet-là de Bukangalozo. Parce qu'on dit, un adage qui dit un pays sans aliments, c'est nul. Maintenant, ce que moi je peux contribuer là-bas, que ces projets-là ne soient pas seulement limités au niveau de la province, nous, là où on a encore ces projets-là, que ces projets aussi soient...
Oui, parce qu'il a dit que c'est un projet pilote, voilà, Adi, je crois que votre le prédécesseur l'a si bien dit, hein, c'est un projet pilote, et dès que le résultat seront... c'est escompté, donc on pourrait disons passer à on veut prendre ça comme modèle et puis répliquer à travers le pays. Donc je crois que ce n'est qu'un projet et puis l'autre. Merci beaucoup Adi. J'ai donné, vous êtes à Walikale, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, hein. Bonjour aussi aux auditeurs de la radio de la paix et surtout ceux qui nous suivent ici à Mobi.
Vous avez la parole, j'ai donné, rapidement, quel est votre point de vue?
Merci beaucoup. Avant que bientôt je vais vous donner donc mon point de vue, hein, mais je commencerai d'abord donc à revenir dans certaines choses, puisque je pense que il y a un temps on avait dispatché, donc donné des tracteurs. Je pense que avec des tracteurs c'était vraiment pour aussi encourager donc l'agriculture dans notre pays. Mais où sommes-nous vraiment avec ces tracteurs-là? Parce que même si chez nous, à l'Italie, je vois qu'il y a certains tracteurs, véhicules qui se passent devant des maisons, hein, des autorités. Bon, je ne sais pas, est-ce que ces tracteurs aussi, avant que notre gouvernement, hein, avant que notre gouvernement pense à faire, n'est-ce pas, l'agglomération des parcs d'agro-industriels de Bukangalozo, est-ce que notre gouvernement a pensé aussi avant des tracteurs qu'ils ont dispatchés dans ces grands pays? Ça d'abord, j'aimerais juste savoir pour ça. Je ne sais pas si l'invité peut me parler pour ça. Bon, je vais maintenant revenir à proposer certaines choses. Bon, je vois que ici chez nous, je vais vous parler d'un exemple, monsieur le journaliste. Si vous traversez la route de Walikale vers Goma, donc vers Massif, il y a un village qu'on appelle Kibua qui produit trop d'haricots, monsieur le journaliste, et là on achète un gobelet d'haricots. Donc dans ce gobelet-là, il y a ce gobelet coûte 4 verres d'haricots qu'on achète à 100 francs congolais. Bon, le projet de parc agro-industriel de Bukangalozo, est-ce que ce projet est en mesure de faire nourrir la population congolaise tout entière?
Ça d'abord, je ne pose plus de questions pour ça. Et aussi, est-ce que si on devrait d'abord commencer donc à améliorer des routes, c'était vraiment une chose louable. Parce que je pense que, prenez l'exemple que je viens de vous faire de Kibou ici. L'haricot, la population de Kibou qui produit trop d'haricots comme ça. Si cela pouvait arriver chez vous là-bas, qui chante aujourd'hui un jour, c'est mieux. Parce que si chez nous, on achète à 100 francs, 4 verres d'haricots, 100 francs congolais. Ça pourrait être mieux. Et c'est pourquoi, moi, ce que je propose, c'est d'abord améliorer d'abord des routes. Parce que nous nous souffrons ici. Et voilà. Pourquoi vous trouvez que chez nous, il y a trop de galères? Pourquoi? Puisque il n'y a pas de routes.
Il n'y a pas de routes, il n'y a pas moyen d'évacuer les produits.
On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire.
Merci beaucoup, Dieu donné. Rapidement, oui, rapidement, rapidement.
Oui, merci beaucoup. Je vais aussi parler aussi pour le cas de ce projet. Est-ce que ce projet sera aussi chez nous au Nord Kivu, et précisément chez nous à l'Ikale, parce qu'il y a une grande forêt ici. Merci.
Merci beaucoup, Dieudonné, d'avoir appelé. Vous pensez que la priorité, en fait, l'idéal aurait été qu'on puisse d'abord arranger les routes pour permettre aux paysans ou encore à ceux qui s'adonnent aux activités agricoles de qu'ils puissent aussi évacuer facilement leurs produits et surtout des produits, vous avez donné l'exemple des haricots qui coûtent moins cher à Walikale chez vous et si jamais les routes étaient très 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 bonnes, en très bon état, qui pouvaient relier en tout cas les provinces, toutes les provinces du pays, ça pourrait quand même faciliter, on pouvait approvisionner Kinshasa facilement, on pouvait approvisionner aussi d'autres provinces qui, en fait, consomment également les haricots. Merci beaucoup, Dieudonné, d'avoir appelé de Walikale. On va terminer avec vous cette première série d'auditeurs. Daniel, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Pierre, et bonjour à tous les auditeurs de la paix.
Vous avez la parole, Daniel.
Merci pour la parole. Je pense que hier, à mon avis, l'idée est bonne, mais il y a en quelque sorte un match pour le politique qui ne tient pas debout. J'ai suivi même le discours du ministre de l'Agriculture qui pensait même à l'exportation. Mais comment est-ce qu'on peut penser à l'exportation des produits de Bukwangalonzo au moment où ce Bukwangalonzo ne va même pas suffire pour la population congolaise? Hein? Donc il faut d'abord...
Dommage, désolé, on aurait bien voulu que vous gardiez encore en ligne, Daniel. Je crois que, Daniel, vous êtes avec nous?
Vous avez laissé une très bonne initiative agricole ici au Katanga, Kanyamakasete, je pense que l'initiative est bonne. J'allais dire aussi, ici au Katanga, nous avons la brassicole. Ce sont des entreprises qui devaient avoir leur propre champ pour nourrir leurs travailleurs et pour utiliser ça comme matière première pour leurs industries. Mais qu'est-ce qu'on a? Le taux de maïs qui sont sur le marché du choix, les sociétés brassicoles tombent dessus pour acheter ça. Ça ne suffit pas d'abord pour la population et les sociétés brassicoles qui devaient aussi avoir leur champ n'en ont pas, ce qui provoque cette pénurie alimentaire. Et c'est une honte pour notre République, je ne cesserai jamais de le dire, à côté de la Zambie ici. Nous avons le même climat, la même température, mais tout ce que la Zambie produise au maximum le maïs, jusqu'à qu'à chaque fois que la Zambie ferme sa frontière, nous nous subissons la pénurie.
Et parce que
nous devons voir des Bukwangalonzo partout dans notre République et non pas en faire un marketing politique.
Merci beaucoup, Daniel, pour votre rappel. D'ailleurs, vous avez cité la Zambie. La Zambie, comme nous le savons, est comptée aujourd'hui parmi les bons élèves, investissements qui ont beaucoup investi dans les secteurs agricoles. Déjà avec les rapports de l'Union africaine, on se rend compte que depuis 2008, la Zambie est passée des 12,5% à aujourd'hui pratiquement 14 points en 2010, donc 2008 12% et aujourd'hui en 2010 selon le dernier rapport, la Zambie est déjà autour de 14% consacrée au secteur agricole. Merci beaucoup d'avoir appelé Daniel de Lubumbashi, 081 890 7315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à vous, Jean Desdieux Mindengo, expert en environnement. Vous êtes notre invité. Vous avez suivi les uns les autres, en tout cas cette longue première série des auditeurs. Comment vous réagissez?
Oui, merci. Je pense qu'il y a eu trop de débats qui ont été réalisés autour du parc agro-industriel de Bukwangalonzo. Et tous ces débats étaient des débats politiques. Je pense que c'est le moment maintenant que les débats politiques cèdent la place au débat scientifique pour que le parc aille de l'avant. Je crois que Sylvain a aidé et synthétisé tout ce que nous avions dit, et il a parlé de l'aspect historique. Il y a eu des expériences qui ont été réalisées, ça on l'a dit, et les services nationaux et les réserves stratégiques générales. Nous n'avions jamais fait l'évaluation de tout ce que l'État avait investi comme moyen pour que ces structures puissent être au service du développement agricole en République démocratique du Congo. S'il y avait variation, ça pouvait nous permettre de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le parc national et pour que le parc agro-industriel de Bukandalonzo aille de l'avant. Il a parlé également de l'aspect social. Que deviendront les populations qui seront autour du parc agro-industriel de Bukandalonzo? Ça, c'est la question fondamentale qu'il faut voir. Le parc va produire peut-être des produits de bonne qualité, mais que deviendra la production extrêmement rudimentaire des communautés locales? Qu'est-ce que ça va devenir? Comment ces gens-là vont être capables de couler leurs produits? Ça, c'est un problème. Et qu'il faut absolument prendre en compte. Il a parlé de l'aspect scientifique, nous avons également parlé de ça, de la pollution. Oui, il ne faut pas créer le parc agro-industriel de Bukandalonzo et pour commencer à exporter des tonnes de produits phytosanitaires pour les pendre sur les sols, sur le futur. Et je voudrais aussi préciser que lorsqu'on réalise la pulvérisation, il n'y a que 10% du produit qui arrive au niveau de la fibre, mais le reste des produits se retrouve au niveau de l'atmosphère, au niveau du sol et au niveau même de l'eau. Donc tout ça, c'est des questions fondamentales qu'il faut absolument si le Sud-Africain veut venir et participer à la création du parc agro-industriel pour exporter des produits en Afrique du Sud, ça nous ne sommes pas contre, c'est leur droit, ils peuvent le faire avec l'appui du gouvernement congolais. Mais nous, ce qui nous préoccupe, comment nous devons être capables d'assurer la sécurité alimentaire de nos populations. Alors, Edi, à partir de
Lubumbashi,
il a parlé également de l'appui au président. Et j'y réponds, on le dit toujours, le métier appartient à ce qui est pratique. Les agriculteurs connaissent l'activité agricole plus que nous tous. Moi, je suis docteur en sciences agronomiques, ingénieur, biologie et environnementale. Je ne peux pas dire que je connais l'agriculture plus que ces gens-là. Si nous voulons développer des secteurs agricoles en Afrique, tout comme en République démocratique du Congo, les premiers acteurs sur lesquels les efforts des gouvernements africains devraient être apportés, ce sont les agriculteurs. Parce que l'agriculture, c'est une activité caractérisée par de nombreuses incertitudes, de la préparation du terrain jusqu'à la récolte, on passe d'une incertitude à une autre. Mais les agriculteurs sont capables de gérer ce genre d'incertitude. Donc, je reste tellement convaincu qu'il n'y a pas de développement du secteur agricole en Afrique sans l'appui que le gouvernement africain peut apporter aux paysans. Je pense qu'il dit à pleinement raison. Il y a bien donné qui a parlé des tracteurs qui ont été distribués aux agriculteurs. Comme on l'a toujours dit, on ne développe pas l'agriculture parce qu'on a décidé de tracter aux gens. On ne développe pas l'agriculture parce qu'on a 80 millions d'hectares de terres arables. D'ailleurs, on en a là, mais on souffre et de la sous-alimentation. On est vraiment dans la sécurité alimentaire la plus criante. Donc, ce n'est pas avec les tracteurs, ce n'est pas avec les parcs comme on est en train de les créer. On va amener le développement du secteur agricole. Pour que le secteur agricole en République démocratique du Congo, tout comme dans beaucoup de pays
africains,
puisse aller de l'avant, eh bien, JR, on l'a déjà dit, c'est une volonté politique. Et il faut des bonnes politiques agricoles.
Oui.
La distribution des tracteurs, on a fait des JR. Quel est le résultat? Qui connaît combien de tracteurs sont en marche aujourd'hui? Combien de tracteurs, qu'est-ce qui a été fait avec ça? Qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ça, c'est des choses peut-être qu'on a donné comme ça. Et puis finalement, il n'y a pas un suivi. Et c'est l'État qui a mobilisé les moyens, mais finalement, il n'y a rien sur le terrain. Alors, est-ce que le projet de création de parcs peut-il nourrir les populations congolaises? Moi, j'y ai en tout état de cause, hein, scientifiquement parlant, et c'est les politiciens ont leur manière de voir les choses. Mais scientifiquement parlant, je ne pense pas que les parcs, tel que dans l'idée que les parcs devaient créer, c'est la bonne idée. Moi, je proposerais qu'au lieu de créer un parc agro-industriel pour produire des sucres, mais le parc ne devrait pas produire des denrées telles que les légumes, telles que les produits.
Et des produits maraîchers.
Non, c'est pas ça. Moi, je pense que le parc devrait être là pour produire des intrants destinés à la production agricole. Je pense, par exemple, aux engrais. Mais pas les engrais chimiques, mais pour produire des engrais organiques.
Mais oui, j'en déduis, si vous les permettez, aujourd'hui le Sud-Africain ont quand même de l'expertise à la matière. C'est vrai parce qu'il y a plusieurs pays de l'Afrique australe qui, au fait, se sont très engagés, ils ont beaucoup investi dans les secteurs agricoles et je crois que l'expérience pourrait être appliquée aussi à l'RDC. raison pour laquelle certains observateurs pensent que le fait de donner la gestion aux Sud-Africains, ça pourrait, en tout cas d'une manière ou d'une autre, en tout état de cause, donner le résultat escompté.
Oui, les débats, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas donner la gestion aux Sud-Africains. Peut-être ça dépend de la hauteur de la contribution de chaque partenaire, ça c'est clair. Ils peuvent donner. Mais je pense que l'idée que ce parc soit là pour produire des légumes, pour produire du maïs, pour produire du manioc, je crois que cette idée ne pourra pas amener le développement de l'agriculture et ce parc ne pourra pas contribuer à la sécurité alimentaire. Comme je l'ai dit, si on veut créer de nombreux parcs agro-industriels dans le sud, que ces parcs soient là pour produire des intrants, les intrants peuvent se retrouver de l'endemain entre les mains des agriculteurs. Parce que le développement du secteur agricole en République démocratique du Congo, ce sont les agriculteurs. Nous avons plus de 70% de la population de l'agriculture. Comment penser développer ce secteur sans toutefois appuyer ces gens-là? Donc, moi je pense qu'il faut créer des parcs, mais les parcs doivent produire des intrants, pas des parcs qui doivent être là pour produire des légumes, etc. Donc, moi je pense que. Il y a Daniel qui dit que le ministre parlait par exemple de l'exportation. Oui, bon, on peut exporter, mais avant d'exporter, avant de parler même de l'exportation, mais il faut voir d'abord comment les gens mettent fin en République démocratique du Congo. Je crois que le moment n'est pas encore opportun de parler de l'exportation parce que nous-mêmes, nous ne sommes même pas capables de manger le matin, à midi et le soir. Donc voilà, JR, de façon brève, ce que je peux dire en rapport avec les questions que nos amis venaient de poser.
Merci beaucoup, Jean de Dieu. Nous vous gardons toujours en ligne. Il est le temps de repasser de l'autre côté des standards avec Arsène qui est à Kikwit et Amouli à Kamina qui nous ont rejoint. Bonjour Arsène.
Bonjour Monsieur JR.
Vous avez la parole, votre point de vue.
Ok, merci beaucoup. Je commencerai d'abord par le point de vue que les Africains ont proposé. Les 10%, plus de 10% du budget national à l'agriculture. Bon, moi je crois que définir par pourcentage, c'est un peu difficile, parce que le budget réalisé par les pays africains en général ne sont pas assez forts pour se soutenir à 10%. Ça, c'est mon avis. Et pour parler des Bukandalos, parce que c'est de là où tourne presque le débat, je crois que l'initiative a été une bonne initiative, mais les conséquences et les paramètres qui lient cette initiative au vrai développement, à la pratique même et aux résultats. Moi, je crois, à mon avis, quand on fait quelque chose comme ça, on regarde directement les à côté. Qu'est-ce qui sera influencé? Qu'est-ce qui sera détruit? Qu'est-ce qui sera développé? Moi, quand je prends ma vision à partir de Kikwit, je crois que le Kwilu en général produit et revend au niveau de Kinshasa. Ça, c'est le marché de distribution du Kwilu. Quand je parle du Kwilu, je vois tout ce qu'il y a comme production dans la province du Kwilu, future province du Kwilu. Maintenant qu'il y a Bukangalonzo, je sais bien que Bukangalonzo va produire. Mettons ça en exergue. Bon, voilà maintenant les conséquences de tous les agriculteurs du Kwilu qui ont l'habitude d'évacuer leurs produits au niveau de Kinshasa et en retour payer ce qu'ils ont besoin, payer le minerval de leurs enfants, payer tout ce qu'il y a comme manufacture. Mais je suis en train de voir comme il y a une certaine négligence quelque part, de voir ces conséquences dans le sens un peu positif, pour que les agriculteurs qui sont au niveau du Kwilu, qui vont produire, quelle sera la qualité de leur production et la quantité, et où ils vont écouler leurs produits. On suppose que si Bukangalonzo travaille correctement, l'année prochaine déjà, il y aura une production. Donc le Kwilu sera en quelque sorte enfermé. Ils auront à faire de leurs produits et la consommation locale. Mais ensuite de cette consommation qu'ils vont consommer localement, il y a le prix qui va baisser. À part le prix qui va baisser, il y a du côté manufacture qui vient de Kinshasa qui va augmenter. Bon, quelles sont les solutions qu'on a pensées faire pour les gens du Kwilu? Parce qu'à part l'agriculture, le Kwilu ne produit pas autre chose. Donc, de là, nous devons voir, penser, Bukangalonzo, ok, la politique a fait tout ce qu'il a fait. Moi, je ne suis pas tellement poussé là dans la politique parce que quand quelqu'un se lève, ça ou pour aller au champ, il ne peut pas crier directement la victoire. Parce qu'après cette marche-là qu'il aura au champ, il y a beaucoup à faire. Donc, avec Bukangalonzo, il y a encore beaucoup à faire, mais il faut voir aussi, comme l'a dit notre invité,
oui, je crois que
les agriculteurs.
Oui, Arsène, je crois qu'il fallait déjà commencer quelque part, parce que si nous lisons les rapports de l'UIA qui a évalué au fait cette dernière décennie par rapport à la recommandation de faire 2014 une année de l'agriculture, alors on se rend compte qu'il y a pas mal de pays africains qui ont connu des avancées très significatives. Au nombre de ces pays, on peut citer le Congo-Brazza qui a atteint quand même le niveau depuis 2010 de 13,7% dans la production agricole. Il y a l'Éthiopie qui a rejoint avec 21,2%. Il y a le Ghana qui est autour de 9,1%, le Burkina Faso autour de 10, et la Zambie le Zimbabwe qui est autour de 30%. Voilà, il y a quand même des pays qui ont fait des avancées. Et aujourd'hui, c'est vrai, avec le pôle économique qu'on appelle communément le parc agro-industriel, je crois que nous allons quand même booster aussi le niveau de la production de la RDC, parce que ce n'est qu'un projet pilote.
Ok, merci beaucoup. Je crois que je ne suis pas contre cette initiative. Pour moi, je peux aller plus loin. Je parle plus bien. Pourquoi? Parce qu'on parle d'environ 80 millions de dollars pour ce parc-là.
Oui.
Et on en fait trop de bruit. Moi, je crois qu'il faut aller plutôt à 800 millions de dollars. 800 millions de dollars, je crois que ça peut aider Bukanalo de faire votre pilote. Et il y a plusieurs secteurs. Voyez le sud Kwango. Voyez le sud Pouille. Voyez un peu le sud Kasaï. Vous verrez que tous ces territoires-là, ce sont des territoires qui sont presque libres, à vide, il n'y a rien. Donc, Bukanalonzo, comme machine machine de choc qui se trouve comme la tête de l'autre, mais accompagnée de d'autres machines qui vont appuyer les agriculteurs. Puis Bukanalonzo, en son tour, s'il veut exporter, s'il veut nourrir, je ne sais comment est-ce qu'on va orienter cette histoire-là, il n'y aura pas seulement la production de Bukanalonzo, il y aura la production aussi de Taemba, la production d'Enkara, la production d'Idofa, la production de Fréchi, ainsi de suite. Parce que si nous allons comme ça, nous n'avons que Bukanalonzo, tous les yeux seront braqués sur Bukanalonzo avec 80 millions de dollars. Pourtant, notre budget, c'est à 8 milliards approximativement. Mais pourquoi ne pas mettre les 10%? Les 10% donc, de notre budget sera comme quelque chose comme 800 millions. Sur les 800 millions, nous aurons 10 Bukanalonzo éparpillés sur l'étendue nationale. Moi, je ne peux pas appuyer cette initiative.
Voilà.
Mais moi, de mon côté, dans le débat, je veux voir un peu les à côté, ce qui n'est pas vraiment vu. Les défauts politiques, on crie toujours à la victoire avant qu'on fasse quelque chose.
Voilà.
Que la politique se mette à côté et
voilà.
Que le scientifique puisse réaliser l'histoire, calculer, et mesurer et définir ce qu'il y a à faire. Laissez les scientifiques faire leur histoire, je crois qu'on aura à protéger et l'environnement, et la population, et la production.
Merci
voilà
beaucoup.
De mon avis.
Merci beaucoup, Arsène. Vous redoutez, comme tout autre observateur, de tomber dans l'expérience de passé avec le service national de réserve stratégique pour ne citer que ces cas. Nous avons vu le service national fonctionner à plein régime au niveau du Katanga, plus précisément à Kanyamakasese. Si à l'époque, selon vos propos, on avait au fait reproduit la même idée à travers le pays dans des coins où on sent que la production agricole est très intense, ça pourrait être un projet durable. Mais alors, vous demandez à ce que on puisse un peu être regardant aussi par rapport à ça, afin de corriger un peu les erreurs si cela n'a pas été pensé en amont. Merci beaucoup, Arsène, d'avoir appelé de Kikwit. Amouli, vous êtes à Kamina, bonjour.
Bonjour, M. Gilles, bonjour à tous les invités, ainsi qu'à tous les experts de la radio Kabylie.
Vous avez la parole.
Oui,
vous avez la parole, votre point de vue.
Merci beaucoup. Moi, de mon avis, je vois que ce projet est bon, et qui demande beaucoup la volonté ainsi que la gestion. Ce projet a été une fois réalisé chez nous au Katanga, vous venez de le dire bientôt même à Kanyamakasese, et dans les districts du Haut-Lomami, où à l'époque de Kabila, cette organisation donc a été de plus de provinces, plus l'été Kasaï ainsi que le Katanga, a profité de cette occasion-là. Mais ce que moi je vais me demander, ici, chez nous, on a d'abord la production du riz à Boutumba, ici, dans les districts du Haut-Lomami, territoire de Bokama. Il y a une grande production du riz, mais ce qui nous fait défaut, c'est les transports, mais c'est Et même si on ne disait tous ces parcs de Bangalons, moi je ne pense pas que cette production ça va aider les Congolais à en intéresser, ou bien lorsqu'ils ont proposé de prendre les parcs de Bangalons, on consultait quelques agronomes de la République démocratique du Congo pour savoir que non, le parc de Bangalons va nous produire autant, ils ont estimé, ils ont pensé que ça, mais je ne pense pas.
Merci beaucoup Amoli. Nous allons lire quelques messages qui nous sont parvenus, envoyés par les internautes. Il y a Olivier Mukuna qui dit « Sans l'agriculture, il n'y a pas de développement économique d'un pays. Je demande au gouvernement congolais d'en faire l'une de ses priorités. » Vincent Ludungue, au Sud Kivu, « Bien que l'agriculture soit la base du développement d'un pays, dommage qu'elle ne soit pas prioritaire dans notre pays, ce qui fait que nous n'avons pas vu la réaction du gouvernement devant les maladies comme la mosaïque qui attaque le manioc au Sud Kivu. Pour y arriver, le gouvernement doit procéder à la distribution des semences améliorées, des engrais chimiques ainsi que mécaniser l'agriculture. » Bertin Traoré Kassiangoula dit « Le gouvernement doit mettre en place des stratégies efficaces en y associant des structures des paysans et maraîchères. » Jabo Ndakola, vu la diversité de notre climat, la RDC a l'opportunité de diversifier ses cultures, mais à condition qu'il y ait un programme bien défini. Sylvain Luma, lancer les travaux à Bukangalonzo, c'est bien, mais accélérer la mise en œuvre de cette initiative en est une autre, parce que, comme on pouvait s'en souvenir, combien d'initiatives lancées, mais jusque-là sans mise en œuvre effective. Aussi faut-il éviter d'étouffer cette action avec des interférences politiques dans la sélection du personnel, des affinités politiques, sociales ou ethniques. Bénédiction Migo de Bukavu, le lancement des travaux du parc agro-industriel de Bukangalonzo est un grand souffle pour la croissance du secteur agricole. Une fois que ce projet prendra une dimension nationale, la RDC qui égorge d'énormes potentialités pourrait se développer. Merci beaucoup. Jean de Dieu Minengou, vous êtes expert en environnement et notre invité. Vous avez suivi cette deuxième série des auditeurs. Comment vous réagissez?
Oui, merci JF. Je crois que quand on lit de façon très brève les interventions de nos amis, et on arrive à la conclusion que tout le monde souhaite que cette initiative puisse avoir un impact sur la vie des communautés locales et sur le développement du secteur agricole en République démocratique du Congo. Et comme je l'ai déjà dit, le développement du secteur agricole en République démocratique du Congo, JR, qu'on ne se trompe pas, ne passe pas par la création de plusieurs centres, de plusieurs parcs agro-industriels qui auront pour mission de produire des légumes, de produire des produits. Je ne pense pas que ça soit ça. Mais le développement du secteur agricole en République démocratique du Congo, où nous avons plus de 70% de la population civile, de l'agriculture passe par autre chose. Et parmi ces choses-là, vous avez d'abord les amis l'ont dit, il faut commencer par réhabiliter d'abord le route des secteurs agricoles. Quand vous allez dans la province de Kwadri, j'étais même en Manaka, à quelques 20 km de Manaka, la route est complètement praticable, mais les gens sont capables de produire. Mais ils ne peuvent pas effacer les produits. Donc, il faut commencer d'abord par réhabiliter le route des secteurs agricoles. Il faut appuyer les paysans avec les intrants. Parce que le problème aujourd'hui, déjà manque même des marchés, déjà manque même des où pour pouvoir réaliser la production agricole. En appuyant les agriculteurs, lorsque ces gens améliorent leurs conditions de vie, on lutte contre la pauvreté. Mais je ne pense pas que la multiplication des centres agro-industriels peut permettre de lutter contre la pauvreté. D'ailleurs, avec concernant la création d'emplois, et JR, comme le centre sera fortement mécanisé, donc il ne faut pas s'attendre, comme certaines personnes le pensent, à la création de beaucoup d'emplois. Parce que ce qu'on repose derrière la mécanisation de l'agriculture, c'est quoi? C'est de provoquer le chômage. Donc, en créant des centres fortement mécanisés, soyez un peu modérés pour ne pas aller dans l'extrémisme, dire non, on va créer beaucoup d'emplois. Ça, c'est trop politique. Mais dans la logique, ils entrent en contradiction avec ce qu'on est en train de dire. Donc, nous saluons l'initiative, mais comme je l'ai dit, je pense à mon avis.
Il faut considérer le préalable.
Il faut réorienter, c'est vrai qu'ils ne vont plus changer parce qu'ils sont déjà sur cette voie, mais si on avait souhaité les conseils des scientifiques avant de se lancer dans cette initiative, nous par exemple ici, nous donnons le conseil que les centres ne soient là pas pour produire les denrées alimentaires, mais les centres soient là pour produire des
intrants
aux agriculteurs. Si on les crée comme ça, beaucoup de centres à travers la République démocratique du Congo, et il faut attendre que dans 20 ans, le Congo deviendra une puissance agricole et pourra nous faire une partie de l'Afrique et voir même les humanités.
Voilà, Richard est à Kinshasa, Claude également dans la même ville. Richard, bonjour.
Bonjour, JR, bonjour à tous les Bonjour à l'invité. Félicitations pour ces propos que je prends comme introduction en disant il a dit que ce n'est pas avec 10% du budget qu'on peut développer l'agriculture au Congo. Il a dit ce n'est pas aussi avec le parc qu'on peut avoir des aliments pour nourrir tout le Congo. Il faut que ce soit un parc pour produire les intrants. Et il a dit quelle qualité d'aliments qu'on va nous donner. Est-ce ce n'est pas un gouffre d'argent? Alors voici une autre fonction. Je suis contre l'État épicier, l'État boulanger, l'État moinaverni, l'État congolais, l'État menuisier. Je suis contre ça. On étouffe les initiatives individuelles. Pendant qu'on est en train de dire, nous allons faire la promotion de la classe moyenne congolaise. Comment faire ça? Lorsqu'on prend la place de la population, comment on peut faire ça? On devient épicier, on devient boulanger, on devient moulin-verni, on devient quoi d'autre? Alors, voici ce que je propose. Premièrement, l'État doit être une source d'impulsion et d'encadrement. L'argent qu'on a jeté là pour donner du travail aux Sud-Africains, on pouvait recenser les entrepreneurs agricoles congolais, il y en a, j'en connais. Moi, je suis de la filière de formation et conservation de produits agroalimentaires, option bio, et leur donner l'argent pour mettre, et en mettant au départ du fou. Si vous ne faites pas comme ça, vous allez en prison. Deuxièmement, on pouvait aussi, à partir de ça, créer la classe moyenne. On aura la classe moyenne comment? Lorsque la a été pillée par d'autres gens qui parlent aujourd'hui, créer une banque de crédit agricole. Laissez aux entrepreneurs agricoles formés comme nous à prendre ces crédits pour donner des aliments bio à la population. L'invité a parlé de la qualité. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes empoisonnés par des aliments que l'État ne contrôle pas. Il y a des engrais là-dedans, des pesticides là-dedans, etc. L'État ne contrôle rien. Merci
beaucoup
pour cette contribution.
Merci beaucoup, Dr. Richard. Nous prenons Claude qui est à Kinshasa également. Bonjour, Claude.
Bonjour, JR.
Vous avez la parole.
Bonjour à tous les auditeurs. JR, je suis très content de cette émission. Rappelez-vous la fois passée quand vous parliez d'Orgaman, j'ai donné une suggestion. Je vous ai dit que si on avait au moins quelques étangs dans chaque territoire, je ne sais pas vous vous rappelez.
Oui, je m'en souviens.
On devait faire une très grande économie de devises, parce que nous devions produire nos poissons sur place, nous ne devions pas dépenser l'argent pour faire la commande d'autres histoires. Je suis content parce que moi j'avais vu en petit et le gouvernement a essayé de voir en grand avec son parc. Mais cette histoire des parcs, on la laisse aux scientifiques et puis aux experts qui peuvent nous dire si c'est rentable ou pas. Mais au moins, je suis très content de voir que le gouvernement s'intéresse quand même à cette histoire de l'agriculture. Si vous voulez développer votre pays, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il faut développer votre agriculture et vous serez riche avec ça. Il faut développer la télécommunication, il faut arranger toutes vos routes et ça vous fera du bien. J'ai été dans beaucoup de nos provinces un peu plus loin. J'ai trouvé qu'il y a de la nourriture qui pourrit là-bas. Moi, je trouve que si on avait arrangé les routes de desserts agricoles, on pouvait gagner encore beaucoup plus que ça. Et puis, quand on parle des routes, on ne voit pas seulement les routes, mais on voit aussi les rivières, les lacs, les fleuves. Il faut curer toutes ces rivières-là pour essayer d'arriver plus loin et dégager les récoltes de la population. Alors, que le gouvernement puisse penser à tout cela. Mes frères qui m'ont précédé ont pratiquement tout dit, mais je voulais quand même ajouter
merci.
Ce petit complément.
Merci beaucoup, M. Claude, d'avoir appelé de Kinshasa 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs où nous retrouvons notre invité. Avec lui, on va conclure quand même cette émission, cet échange citoyen que nous venons d'engager avec vous, chers auditeurs. Jean Didier Emidengo, vous êtes expert à l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la recommandation de l'UIA pour le développement de l'agriculture en Afrique en général et en particulier en RDC avec le lancement officiel de parc agro-industriel de Bukangalonzo?
Merci, JR. Et avant de répondre à votre question, j'aimerais également saluer les interventions de notre ami Richard et de Claude qui ont dit finalement des très bonnes choses. JR, que ce soit en rapport avec la recommandation de l'Union africaine, l'État producteur à travers le monde, on n'en a pas besoin. Ça ne sert à rien aujourd'hui devant l'État en train de créer des parcs pour que lui soit partenaire. Non. L'État qu'on a besoin pour le développement du continent africain, pour le développement de l'agriculture dans notre continent, c'est un État organisateur, c'est l'État qui a pris les initiatives, pas l'État lui-même, il est là dans la production en train de créer des choses. L'expérience montre que ce n'est pas possible à l'État de s'engager dans ce genre d'histoire et surtout dans une activité caractérisée par de nombreuses incertitudes comme l'agriculture. On l'a dit aujourd'hui, c'est ça le conseil. Il y a notre ami Claude qui a parlé. On pouvait avoir des états en République démocratique du Congo. Et ça pouvait parler le pays d'importer des choses extrêmement dangereuses pour la santé. Vous voyez, dans beaucoup de provinces, les gouvernements provinciaux se lancent dans beaucoup d'initiatives en rapport à ceci, en rapport à ça. Nous avions donné toujours des conseils. Vous n'avez pas le temps de faire tout ce que vous êtes en train de faire. Et vous êtes en train, au contraire, qui se multiplie même les structures. À quoi sert un gouvernement provincial de commencer à produire des semences? Parce qu'il y a déjà un service national des semences qui a des directions au niveau des provinces. Vous voulez appuyer ces structures, les gens multiplient d'autres structures pour des raisons complètement politiques et des raisons qui ne peuvent jamais permettre à la République démocratique du Congo d'aller vers le développement. Donc je pourrais dire que la recommandation de l'Union africaine, elle est bonne, mais je ne pense pas qu'il faut amener le budget à 10, à 15, à 20% pour que le secteur agricole se développe dans notre continent. Pour que le secteur agricole se développe dans notre continent, il faut d'abord une bonne volonté politique au niveau des affaires pour que notre agriculture, et il faut que les États africains élaborent des politiques viables. Pas des gens élaborent des programmes, les gens élaborent des projets, mais qui n'ont jamais vu un certain type d'application. On a parlé ici très récemment dans la République de l'Union entre en deux zones agricoles. Mais on est où par rapport à ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et on est à quel niveau par rapport à ça? On a vu des choses ici.
Voilà, merci beaucoup, Jean Desdieux, Milingou. Nous rappelons que vous êtes expert en environnement. Merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine. Nous disons également merci à Paul Badaniam qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Piro et la Meji et Elvira Pandou, coordonnée et présentée par Jérémy Gembos, la supervision de Nicole Gaka. On se retrouve demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez des programmes sur le campus.